Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Qu'est-ce qui nous a interpellés dans les actualités cloud ou DevOps en ce mois de décembre 2021? Et tu vas voir que ça bouge. Installe-toi, prends un petit café ou un petit thé et c'est parti pour ce nouvel épisode d'Actu DevOps.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, et dans ce nouvel épisode d'Actu DevOps, je suis avec René. Bonsoir, René.
Bonsoir.
Et Erwan. Bonsoir, Erwan.
Bonsoir.
On dit bonsoir parce qu'on enregistre ce soir, mais vous, vous avez l'épisode le matin. Mais reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir les petits outils qu'on t'a dégotés, parce que Radio DevOps te fournit en outils maintenant. Et avant de continuer, je vais faire un petit appel au soutien. Si tu apprécies notre podcast et si tu aimes ce qu'on fait, tu peux nous soutenir sur Liberapay. Tu peux nous faire un petit don ou même nous laisser un petit message aussi sur YouTube ou sur les applications de podcast. Tu as le lien en description. Alors, c'est moi qui m'y colle pour commencer. Et je vais vous parler de GaiaX parce que on en a beaucoup parlé dans Radio DevOps et il y a encore du grabuge chez GaiaX. Alors, plutôt que de vous faire une brève comme d'habitude, en fait, je vais vous parler, je vais vous citer un post LinkedIn de David Clément, de Clément David, excusez-moi, Clément David, qui est CEO de Paddock. Paddock, c'est une société de conseil dans le cloud, parce qu'il résume trait pour trait ce que je pense. Et on va parler de la sortie de Scaleway de GaiaX. Je vous en ai déjà parlé dans la trouvaille du vendredi du 19 novembre. Donc, je vous renvoie à la trouvaille du vendredi du 19 novembre pour en savoir plus. Mais là, on va écouter ce que Clément nous dit. Petite bombe dans le cloud français. Scaleway claque la porte de GaiaX. Plusieurs personnes m'ont demandé l'impact de cet événement. Donc, je vous partage mon avis. Alors, c'est bien sûr l'avis de Clément David, hein, pas le mien. Je vous préviens, c'est cash. Le contexte. Lors de la deuxième conférence annuelle de GaiaX, vous savez, le cloud européen, le CEO de Scaleway, Yann Leschel, a lâché. Je cite, « Je n'ai plus de temps à perdre avec un projet gangréné de l'intérieur par les GAFAM. » Sauvage. GaiaX a justement pour but de garantir la souveraineté des données des Européens, des cloud providers américains et chinois, Amazon Web Services et Microsoft en tête. Alors, pourquoi Yann, il est pas content? Alibaba, Microsoft et Amazon Web Services étaient sponsors de la conférence en question. Ça veut dire qu'ils payaient en fait, hein. Ils payaient la conférence. Quand tu réunis tes alliés pour discuter de comment se protéger de certains concurrents, c'est quand même étrange d'accepter un gros chèque pour que les mecs puissent venir faire leur pub. Mais le vrai souci, c'est surtout que depuis mars, les mêmes entreprises chinoises et américaines font partie de GaiaX. Ils sont présents dans les comités de travail et bossent avec les autres membres. Sacré cheval de Troie. Qu'est-ce que ça va changer au destin de GaiaX? Rien. Pourquoi? Parce que, selon Clément, GaiaX n'avait déjà plus vraiment de destin. Petit 1, parce que 2 ans après sa création, on ne connaît toujours pas l'objectif du projet. On sait tout ce que ça existe, mais qui peut nous dire aujourd'hui ce que le collectif est en train de faire et sur quoi il travaille? Petit 2, parce que Scaleway ne fait qu'appuyer là où ça fait mal, à partir du moment où ils ont dit, GaiaX, hein, ils ont dit « les Chinois et les Américains sont les bienvenus s'ils promettent d'être sympas ». La posture en prend un coup, et la crédibilité du projet aussi. Petit 3, parce que la stratégie cloud du gouvernement présentée en mai a mis fin au débat. Porte ouverte à Google Cloud Platform et Microsoft en partenariat avec Thales, Orange et Capgemini. Circuler, il n'y a rien à voir. La souveraineté de nos données et de nos compétences est un sujet clé pour le futur. Je pense qu'il s'écrira sans GaiaX. Donc je finis la citation de Clément David. Pour le coup, on peut aller plus loin parce que ce qu'on sait, c'est que GaiaX y fait partie depuis juillet 2021 d'un autre projet de cloud européen qui est l'European Cloud Industrial Alliance, nommé Euclidia, qui est en fait un regroupement de 22 sociétés européennes, et dedans il y a BlueMind, Jamespot, Nexedi, Nextcloud ou encore Abilion, que je ne connais pas. Je vous en parlais déjà dans la trouvaille du vendredi du 16 juillet 2021, donc vous avez le lien en description. En parallèle de ça, sur LinkedIn, il y a Michel Paulin, qui est le directeur général d'OVH Cloud, qui déclarait, je cite, « Nous sommes membres fondateurs de Gaia-X et au bord de Gaia-X. Gaia-X est en ce moment à la croisée des chemins. Les intentions sont extrêmement bonnes parce que c'est la garantie d'un cloud ouvert, réversible et interopérable. » Il appelle à l'esprit de combativité avec insistance et toujours, je cite, « Il ne faut pas déserter Gaia-X maintenant. Il faut se battre aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que cela réussira. Pourtant, nous sommes très moteurs et c'est maintenant que ça se joue. » Parallèle de ça, Octave Klabat disait aussi dans un post LinkedIn « Tout le monde n'est pas intéressé par le cloud réversible et interopérable. Nous, on l'est. On prépare l'open source de nos projets Gaia-X sur de notre futur public cloud avec trois frameworks, HW plus Store qui permet d'aller de 1 à 100 baies, OSI qui est en fait l'agrégation d'un équivalent de IAM, de KMS, etc. Et le troisième projet qui est PaaS qui permet du stockage de la database de service, du network, donc du réseau, de l'intelligence artificielle et du big data. Voilà grosso modo ce qui se passe autour de Gaia-X en ce moment. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez tous les deux. Et je vais laisser la parole à Erwan, parce que son chat a l'air d'être assez volontaire pour parler de Gaia-X.
Oui, il doit être aussi blasé que moi sur le sujet. Ce qui est un peu perturbant, c'est que, encore une fois, c'est un projet qui part sur de bonnes intentions avec des acteurs importants et qui ont des moyens de faire bouger les choses et de faire quelque chose d'ambitieux. Et en fait, ce qui se passe avec Scaleway, finalement, cristallise toutes les craintes qu'on a autour de ce genre de projet où finalement, on ne sait pas trop où ça va, c'est très nébuleux. On voit même que du coup, ça ouvre la porte à des partenariats donc avec les GAFAM, tout ça. On comprend pas grand chose, c'est quasiment, enfin j'imagine que d'autres vont suivre, mais d'ailleurs j'ai pas fait attention, mais dans ce que tu disais t'as pas évoqué l'hébergeur Hoster là qui a aussi quitté le projet. Enfin, on a l'impression que il y a d'autres acteurs de ce groupe qui vont petit à petit se désolidariser du projet. Enfin bon, bref, ça sent un truc qui va aller dans le mur, quoi. Et toi, René, t'en penses quoi?
Moi, je pense que t'as un peu tout dit. Après, ce qu'on nous avait dit un petit peu, c'est que c'était pour établir des standards d'interopérabilité. Enfin, ça reste quand même super flou. Et concrètement, qu'est-ce que ça a produit? Alors après, moi, je suis pas peut-être là le truc au jour le jour, enfin loin de là. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça dure depuis un petit moment et je doute pas qu'ils travaillent, hein, y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, on voit rien en fait de réellement concret, de palpable, de qui sort de Gaia-X là. Et voilà, c'est un petit peu effectivement décevant. Après, est-ce que c'est dur à dire, je pense qu'on manque d'infos pour apprécier la situation à sa juste valeur. Et ouais, est-ce qu'il faut rester et essayer de faire corps? Oui, ça serait peut-être la sage décision, mais peut-être que voilà, la réaction de partir un petit peu là parce qu'on pense que c'est plié. Voilà, difficile de juger, je pense, à notre niveau.
Et puis en plus, finalement, OVH qui open source tout un tas de choses là, au final, ils le font dans leur coin. C'est pas un truc qui est lié à Gaia-X. Donc vraiment, je comprends pas bien où ça va aller, quoi.
Oui, parce que quand on parle d'interopérabilité du cloud, forcément, ça passe par des logiciels que tu peux retrouver à plein d'endroits. Donc évidemment, ça passe par des logiciels libres. Et pour le coup, Gaia-X a quand même commencé il y a 2 ans, et a priori, on comme vous dites, on ne sait pas ce que ça donne. On sait juste qu'il y a en effet des labels, qui vont être données. Il y a le gouvernement d'un autre côté qui parle de cloud de confiance, il parle plus de cloud souverain ou quoi que ce soit. Toutes ces questions-là, j'ai l'impression qu'elles disparaissent du débat. Et que, pourtant, on aurait très bien pu garder Gaia-X européen et collaborer avec les clouds américains ou chinois sans les faire rentrer à l'intérieur de Gaia-X. Ça aurait posé aucun problème. Je ne comprends pas qu'on les ait fait rentrer. Enfin, je veux dire, tu peux coopérer avec des gens qui ne font pas partie de ton réseau. Typiquement, nous, on est dans notre coopérative. On coopère avec d'autres coopératives et c'est pas pour ça qu'on fusionne, hein, qu'on fait un groupe. Enfin, c'est ça l'idée. Je ne comprends pas bien non plus. Et je voulais citer un talk que j'ai regardé finalement hier soir. Et c'est un talk de Quentin Adam qui nous parle de cloud souverain d'un point de vue entrepreneurial et pas d'un point de vue légal ou législatif comme je le fais. Et il en parle d'un point de vue économique. Et c'est un talk qui est très très bien. Je vous mets le lien en description. On parle pas vraiment de Gaia-X. Enfin, c'est un talk qui est en partie en réaction avec ce qui se passe parce que du coup, il nous explique de pourquoi est-ce qu'on doit faire confiance à nos fournisseurs cloud européen et pourquoi est-ce qu'on doit mettre nos billes là-dedans et pourquoi on ne doit pas laisser en fait l'intelligence partir complètement chez les Américains. Donc, je vous encourage à aller voir ce talk.
Il est très bien. Je l'ai vu aussi. Enfin, je l'ai entendu aussi et il est pas mal.
Ouais, enfin, il déroule bien plein d'idées, je trouve. Mm-hmm. Eh ben, on va passer à la suite alors, parce que je crois que si on continue, on va déprimer tous les trois. René, tu vas nous parler d'une conférence, enfin plutôt d'une intervention, et moi je vous parlerai de la conférence dans laquelle a eu cette intervention.
Ouais, alors juste pour dire que oui, j'ai eu un peu de mal à trouver mes infos pour. J'ai essayé de faire un peu original, changer un petit peu les thèmes. Et ça a été un peu dur, mais j'ai trouvé un truc, une info assez sympa. Donc, c'est une intervention de quelqu'un qui est à la fois blogueur à propos du dev, Graphic Art, donc assez connu sur YouTube, et qui a fait une configuration pour en expliquant pourquoi c'était intéressant d'apprendre plusieurs langages. Et je trouvais cette intervention plutôt intéressante. Je partage en grande partie son avis. Alors c'est peut-être pour ça, je suis peut-être un peu biaisé, mais voilà, il abordait des points assez intéressants sur l'ouverture que ça donne d'apprendre plusieurs langages et entre guillemets il enterrait un petit peu moi quelque chose qui me fatigue. Souvent il y a un peu une guerre entre les langages, les gens qui font du Java. Sont décriés par ceux qui font du PHP, vice-versa, enfin voilà. Et donc là, il enterre un petit peu l'âge de guerre en disant que tout ça, c'est des outils, certains outils sont mieux dans certains contextes que d'autres. Et voilà, je partage ça assez à 100%. Je pense que ça permet d'ouvrir un petit peu les esprits et qu'apprendre d'autres langages, ça permet aussi d'être un meilleur programmeur parce qu'on voit des choses qui sont possibles dans certains langages, certains paradigmes, par exemple, qui n'existent pas dans tel autre. Et entre guillemets, c'est un enrichissement. Et voilà, donc j'étais assez en phase avec ça et je pense que c'est intéressant de l'écouter et voilà, ça peut faire changer un petit peu l'état d'esprit de certains, ça peut être pas mal. L'autre chose aussi qui est importante, c'est que je pense que aujourd'hui, en étant développeur, il y a peu de chances qu'on reste sur un seul langage, étant donné la diversité qu'il peut avoir et de toute façon, avec l'évolution, je pense que ça va être compliqué de faire l'intégralité de sa carrière sur un seul langage. Je pense que ça va être de moins en moins possible. C'était peut-être possible il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu révolu. Voilà, donc j'ai trouvé cette intervention intéressante. Et voilà, si vous voulez la partager, et est-ce que vous avez entendu? Ou est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas.
Moi je l'ai pas, j'ai pas eu l'occasion d'écouter ce talk, mais clairement, enfin ce que tu décris me paraît, ça devrait être enseigné partout. Alors pas forcément connaître tous les langages, hein, parce que ça prend un temps infini, mais par contre avoir suffisamment d'ouverture pour se renseigner, etc. Et pour ne serait-ce que, bah, effectivement, ce que tu évoquais, l'apprentissage continu. On est dans des métiers qui évoluent tout le temps. Donc, il faut un peu se mettre à jour, comprendre pourquoi avant on faisait des choses d'une telle façon et maintenant d'une autre. Donc, c'est les logages, mais je mets ça sur toutes les technos en général. Et puis aussi ça permet l'apprentissage de nouvelles techno et de nouveaux langages, ça évite le dogme et ça c'est quand même assez important. Et ce que tu décrivais avec les gens qui font du PHP qui crient sur les gens qui font du Java machin, en fait très souvent ça vient du dogme parce que t'as une expertise sur un truc particulier qui marche très bien probablement dans ton contexte, mais voilà quoi. Enfin, donc cette ouverture d'esprit, elle est aujourd'hui mandatory pour évoluer dans les métiers de l'IT. Ça c'est évident quoi.
Alors moi j'ai pas regardé la conf, même si elle est dans la liste des choses que je dois voir, mais sauf que ma liste de vidéos à voir est tellement grande sur YouTube que maintenant j'ai dépassé les 1000 vidéos. Donc voilà, mais je suis assez d'accord avec vous sur le fait que chaque outil doit être utilisé en fonction de notre besoin, et c'est vrai aussi dans les outils d'infrastructure, pas que dans les langages, et donc les outils, ils ont des objectifs, et en fonction des objectifs qu'on veut avoir pour nos applications ou nos clouds, et c'est vrai aussi pour le choix des clouds, il faut choisir le bon outil qui est adapté à notre besoin, et pas forcément avoir toujours le même outil. Je parle souvent du marteau de Maslow dans mes cours DevOps, et le marteau de Maslow, je ne sais pas si vous connaissez tous les deux.
Je pense, mais je vais te laisser.
Voilà, donc le marteau de Maslow, il nous disait, c'est un philosophe, il nous disait que si on n'a qu'un marteau dans notre boîte à outils, on voit tous les problèmes comme des clous. Et du coup, si on n'a qu'un seul outil à disposition, on va essayer de tout régler avec cet outil-là. Et des fois, ça marche pas, parce que si tu as une vis et un marteau, bah, clairement, ça marche pas. Donc, ayez beaucoup d'outils et surtout, posez-vous la question de quel outil est adapté à quoi.
Et donc, ouais, oui, pardon. Je voulais dire, je crois que tu voulais ajouter, en fait, parce que ça fait partie d'une conférence.
Ouais, c'est exactement ce dont j'allais parler, ouais.
Ouais, excuse-moi.
Ah, pas de souci. Et donc, ce talk fait partie de l'Asynconf. L'Asynconf, c'est une conférence qui est organisée par Graven en ligne. Graven, c'est un YouTuber aussi, un très gros YouTuber. Je vous mets le site de la conférence et de la chaîne YouTube de l'Asynconf en note. Je pense que vous n'aurez aucun problème à trouver Graven sur sa chaîne YouTube. Mais du coup, je trouvais ça assez intéressant qu'il organise ça, puis c'est une conférence gratuite en ligne qui dure 2 jours. C'est la deuxième année et c'est super bien organisé. Enfin, je veux dire, tous les talks ils s'enchaînent ils s'enchaînent très très bien. C'est ça que je voulais dire. Il s'enchaîne très très bien et finalement Graven, il fait office de maître d'orchestre à présenter chaque talk. C'est vraiment super bien, je trouve, pour les personnes qui ont pas la chance d'avoir des séminaires partout. Typiquement moi qui suis à Saint-Étienne, je vais pas à Paris tous les jours. Donc du coup, c'est bien d'avoir des conférences comme ça, et ça m'a donné des idées à moi aussi. Donc allez voir la Synconf et toutes les conférences qui y sont, parce qu'il y en a plein des très intéressantes. Et c'est le moment de vous rappeler aussi que le podcast est en Creative Commons, donc en licence libre. Il est en CC BY-SA, ça veut dire que vous pouvez le découper. Vous pouvez en prendre des bouts, les mettre dans vos propres publications, dans vos talks. Vous pouvez les partager aussi. Il faut juste nous créditer. Si vous pouvez en plus nous envoyer un petit mot pour nous le dire, ça nous fera plaisir. Donc, n'hésitez pas à le partager et à l'utiliser, que ce soit cet épisode d'Actu DevOps ou tous les autres épisodes de Radio DevOps, puisque tous sont Creative Commons. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas remarqué, toutes les vidéos que je publie sur la chaîne YouTube sont aussi en Creative Commons. Et donc, je vais laisser la parole à Erwan, qui va nous parler d'une fuite de données, encore une.
Oui, donc il n'y a pas très 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 longtemps, il y a eu une news qui a fait un peu parler, puisque soi-disant 1 million de sites WordPress ont été victimes d'une fuite de données. Donc déjà, pour resituer un peu de contexte, pour ceux qui ne connaissent pas WordPress, c'est une plateforme, enfin c'est une plateforme principalement de blog en PHP qui gère du contenu web et qui est excessivement populaire puisque ça, enfin on n'a pas les chiffres exacts, mais il y a en gros 40% d'internet qui est là-dessus. Donc forcément, dès que on évoque une faille sur du WordPress, bah, tout le monde tremble un petit peu parce que il y a énormément de sites concernés. Et puis, on sait que par le passé, un peu avant les années 2010, WordPress était très souvent utilisé par les hackers, ceux qui faisaient du SEO en mode Black Hat, pour se créer des backlinks faciles dans les footers de WordPress. Du coup, qu'est-ce qu'on apprend fin novembre? C'est que, soi-disant, une partie des sites WordPress hébergés par GoDaddy ont eu une fuite de données. Donc encore une fois, si vous ne connaissez pas GoDaddy, qu'est-ce que c'est? C'est un mastodonte de l'hébergement web. Ça offre énormément de services web, mais ça fait partie des très gros hébergeurs web dans le monde, dans le top 3. Et en gros, ce qui va faire pour vous, un des services qu'il offre, c'est il héberge votre site WordPress, il fait sa création, la mise à jour du core, des plugins, des backups, ça gère le cache, etc., etc. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses pour vous. Si vous avez un WordPress. Et donc, en gros, ils hébergent environ 1 million de sites WordPress. Du coup, il y a une fuite qui vient de chez eux. Du coup, grosse panique, parce que les mails des utilisateurs ainsi que leur numéro de téléphone ont fuité. Donc, ça, avec toutes les histoires de phishing, il faut faire quand même très attention. Et puis, en fait, on se rend compte aussi que les passwords créés lors de l'installation ont fuité. Pas trop comment ça a été conservé, mais en tout cas ça a fuité. Donc ça veut dire que les gens qui n'avaient pas changé ce password, bon bah ils pouvaient se faire route. On apprend aussi que il y a un SFTP qui est associé au compte pour que les gens puissent uploader des fichiers ou quoi. Bah le password de ce compte a aussi fuité. Et on apprend aussi que la clé privée SSL, donc pour faire la rupture du HTTPS, enfin la rupture SSL du HTTPS, bah aussi fuité. Donc du coup, un peu grosse panique côté GoDaddy. Donc très vite, dès que tout ça a été détecté, très vite et compris, ils ont lancé un force du reset des passwords de toutes les plateforme WordPress qui s'hébergeait, donc password DB, admin, etc. Et du fameux SFTP. Ils ont relancé leur procédure pour réémettre une clé et les certificats SSL associés, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des gens extérieurs, donc WordFence, qui sont spécialisés dans la sécurité WordPress et du coup qui ont fait tout un tas d'analyses sur ce qui s'est passé un peu chez GoDaddy. Alors à leur niveau, puisqu'ils font pas partie des insiders, donc c'est une analyse avec ce qu'ils peuvent avoir comme information. Et en fait, ils ont confirmé qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas côté GoDaddy, par exemple, le password SFTP est, semble-t-il, stocké en clair ou en tout cas avec un hash qu'on peut facilement reverse, donc par exemple en base 64. Donc, bref, c'est pas, il y a rien qui est salé ou quoi que ce soit. Donc, en fait, il démontre que, en fait, s'il y avait une fuite chez GoDaddy, bah, en fait, on pouvait récupérer du coup de façon assez facile, visiblement, tout un tas d'informations qui étaient en clair. Et donc, du coup, ils ont fait un rapport, on vous mettra le lien qui va bien, où ils décrivent tout ce qu'ils ont fait pour comprendre ce qui était en clair et tout. Et donc, désolé, le chat est passé, ça m'a fait perdre le fil. Et donc, du coup, au-delà du fait que ce soit facilement exploitable, etc., on a surtout appris que le problème venait pas de WordPress, que c'était pas un problème de plugin ou du core de WordPress. Donc déjà, ceux qui avaient des sites WordPress étaient rassurés. Mais en fait, visiblement, une petite négligence côté GoDaddy. Puisque si très vite ils ont communiqué pour dire ce qu'ils étaient en train de faire et communiquer auprès de leurs clients impactés, le CISO, donc le chef de la sécurité chez GoDaddy, il a tout simplement dit que un accès non autorisé au serveur WordPress avait été découvert et que bah, dès qu'ils s'en sont aperçus, ils l'ont coupé. Alors, je ne sais pas si ça doit rassurer, ce qui est sûr, c'est que depuis cette information et cette communication, et que du coup, pendant un moment, ça les arrangeait bien qu'on laisse penser, croire que le problème venait de WordPress, bah, ils n'ont pas trop communiqué. On sait juste que ils ont juste communiqué sur le fait que ce fameux accès tiers a été exploité en gros depuis fin septembre, pardon. Donc ça fait un bout de temps, donc ça fait du temps avant que les gens puissent. Enfin, on peut imaginer qu'avec tout ce laps de temps, que les gens ont pu récupérer tranquillement, que les attaquants ont pu récupérer tranquillement donc toutes ces informations. Et donc du coup, depuis GoDaddy ne communique plus vraiment, donc on ne sait pas trop où ça en est. Donc même si a priori tout a été coupé. Donc du coup, pour finir ce long fleuve de parlotte, ce qu'il faut retenir, c'est que encore une fois, même sur des gros hébergeurs qui sont censés être hyper nickel sur la sécu, sur les process, etc., ben, on voit qu'ils peuvent avoir des problèmes des problèmes assez classique en fait, visiblement, avec donc des accès non autorisés ouverts à tout le monde. Et moi, ce que je trouve plus inquiétant, c'est effectivement tout ce côté un peu flou autour de la communication. Je serais client GoDaddy, je ne serais pas forcément rassuré sur ce qui se passe, parce que, on rappelle, au-delà du fait qu'il y ait cet accès non autorisé, y avait tout un tas de choses écrites en clair, facilement exploitables. René, ça t'évoque quelque chose ?
Oui, bah après, je pense que tu as dit déjà beaucoup de choses. Effectivement, ce qui est assez choquant pour c'est un petit peu la transparence. Nous, on a quelques acteurs français au moins qui ont des soucis, ils sont assez clairs sur, voire même presque trop transparents parfois sur ce qui s'est passé. Là, clairement, ça paraît quand même assez obscur. Il y a des choses, par exemple, qui me paraissent extrêmement douteuses sur la sécurité, notamment le fait que tu parlais du certificat SSL, de la clé pour le certificat SSL. Enfin, ça pour moi, en termes de sécurité, c'est quelque chose de majeur. En gros, ça brise une grosse partie de la sécurité, enfin même la sécurité complètement de SSL si on se fait voler cette clé privée. Ça donne vraiment pas confiance. Et effectivement, GoDaddy, c'est quand même un acteur américain conséquent. Hein. On parle d'une boîte qui a plus de 5000 employés. Donc ça effectivement inspire pas la confiance, et voilà, encore une fois, c'est pas parce que les acteurs sont gros qu'ils font forcément que l'aspect sécurité est super bien traité, et c'est assez dommage.
Donc en fait, ça nous rappelle que aucun acteur n'est à l'abri de problèmes, parce qu'il y a des gens dans ces acteurs-là, même les gros, et c'est les gens qui font des erreurs. Et personne n'est infaillible. Ça, il est bon de le rappeler. Ce qui m'étonne, par contre, c'est la manière dont GoDaddy a communiqué. Comme tu disais, Arwan, je serais client, je me poserais la question de savoir si je partirais, parce que mon fournisseur qui traite sa communication comme ça, moi, je préfère un OVH qui plante et qui communique. Ou même on sait que Scalway communique pas mal aussi sur leurs problèmes, que GoDaddy qui essaye de « bon, bah, c'est leur faute, hein, c'est la leur ». Parce que du coup, on tombe dans le travers du « s'ils communiquent comme ça, est-ce qu'ils reconnaissent leurs problèmes, est-ce qu'ils les améliorent, est-ce qu'ils sont dans le process d'amélioration continue ?» Et ça me pose un souci, c'est la reconnaissance de l'erreur et le fait d'admettre qu'on a des problèmes.
Ah, c'est vrai qu'avec cette communication, on pourrait s'attendre à se dire ils ont juste coupé l'accès, hein, parce que pour eux c'était un problème d'accès là. Ouais. Mais alors que manifestement il y a des problèmes bien plus profonds, quoi. C'est pas cool.
La transparence, c'est hyper important quand on a un service en ligne et qu'on a des clients, je trouve, parce que c'est même si, enfin, c'est normal, comme je disais, tout le monde fait des erreurs. Donc, tant qu'à faire, autant être transparent et tenir au courant ses clients, c'est mieux que de cacher ça sous le tapis. Enfin, en tout cas, en tant que client, c'est comme ça que j'aimerais qu'on me traite, et en tant qu'éditeur de SaaS, c'est comme ça que je veux traiter mes clients. C'est en étant transparent avec eux.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur GoDaddy ou est-ce qu'on passe aux petits outils?
Les outils.
Alors oui, chers compagnons, comme je te le disais en introduction, on a des outils et cette fois-ci, on en a pas mal parce qu'on en a chacun, en fait, on en a chacun. Et puis René en a encore plein, comme d'habitude. René, notre fournisseur d'outils officiel chez Radio DevOps. Alors René, justement, tu veux nous parler d'un petit outil?
Oui, bah, je ne pouvais pas m'empêcher de mentionner celui-là. En fait, j'en ai déjà un tout petit peu parlé dans une précédente actu. J'avais parlé de RipGrep et j'avais vaguement évoqué FD. Donc FD, en gros, c'est son pendant. On va dire qu'il y a une grosse partie du fonctionnement qui est identique à RipGrep, donc dans la façon de traverser les répertoires de manière super efficace en parallèle. Et en fait, c'est un remplaçant à Find. Hyper efficace, donc qui permet de, en termes de rapidité, de trouver un fichier sur le disque dur extrêmement vite, avec aussi un peu plus d'intelligence. Il va pas, par défaut, il va pas chercher dans les fichiers qu'on est censé ignorer dans un fichier .gitignore. Voilà, donc un outil, je pense, qui est quand même maintenant assez connu, mais si c'est pas le cas, voilà, je vous encourage à aller voir. La seule petite difficulté en ce qui me concerne, c'est que Find, je l'utilise depuis très longtemps, et par contre, la syntaxe du Find d'origine est assez, est pas terrible, en fait. Du coup, là, ils ont cherché à l'améliorer, mais c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude de Find, ça le rend, il faut un peu se faire à FD. La syntaxe est plus simple, mais ben, parfois, ça perturbe un petit peu. Mais voilà, super outil, extrêmement efficace.
Ouais, tu vois, moi je connaissais pas FD, donc tu m'apprends ça. Alors moi ça m'évoque deux choses. La première, c'est que faut que je teste, mais ça, bon, voilà. Et la deuxième, c'est faut faire attention quand on développe des scripts, par exemple. Je fais beaucoup de scripts bash et ce genre d'outils qui sont très très bien, mais qui sont pas installés par défaut sur les distributions. Faut faire attention parce que si on les met dans nos scripts et qu'ils sont pas installés sur les distributions et qu'on gère mal les erreurs, eh ben ça peut être un vrai problème pour le coup. Donc faites attention quand vous utilisez ce genre d'outils. Donc soit évitez de sortir des outils classiques qui sont dans toutes les distributions, soit testez la présence de vos outils en entrée de vos scripts.
Oui, bonne pratique, ouais, vérifier que les binaires sont là avant de lancer quoi que ce soit. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'outil maintenant, il commence à être assez connu et il est disponible en package pour la plupart des distributions. En fait. Parce que parfois, je présente des outils, ils sont encore... Ben voilà, faut encore les recompiler, etc. Mais voilà, FD, RipGrep, maintenant, c'est devenu quasi du standard. Ça, toutes les distributions, à première vue, embarquent ça avec un paquet.
Erwan, tu veux réagir sur FD ou on passe à ton outil?
Non, j'ai pas de choses à compléter par rapport à ce que vous avez dit. Moi, je vais vous parler de l'outil que j'ai utilisé récemment et qui m'a permis de gagner un peu de temps, qui est en fait un outil en ligne pour débugger vos configs grok. Donc ça va parler essentiellement à tous ceux qui font du logstash et qui peuvent pas, enfin qui sont obligés de parser les lignes de log ou quoi que ce soit. Ça peut être toujours un peu délicat de tester. Alors il y a plein de méthodes, mais là le truc qui est sympa, c'est que directement dans votre navigateur vous pouvez tester vos règles grok et voir directement l'output, voir à quel point vous avez réussi à bien parser ou non. Et en plus, comme ça supporte ça supporte vraiment les mêmes confs que vous retrouvez dans Logstash avec des patterns que vous pouvez définir, etc. Bah en fait, ça vous permet vraiment de tester en conditions réelles ce que vous allez faire avec grok. Donc quand vous devez faire des trucs un peu tricky et que ça vous saoule de lancer votre Logstash en local, ou dans un conteneur ou quoi que ce soit, bah ça c'est très très pratique. Et donc c'est dispo en ligne sur Heroku. Voilà.
Moi je peux juste confirmer ce que tu dis. Moi je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps non plus. Et ouais ça apporte vraiment une aide conséquente pour valider les regular expressions. Ouais, c'est un super outil qui fait gagner beaucoup de temps.
Alors moi, j'utilise pas Logstash, mais j'utilise Loki. Alors je me posais la question s'il existait la même chose pour Loki. Je crois que non. Il va falloir que je parte à la recherche de ce genre d'outil pour Loki. Alors, vous confirmez que ça fait pas les deux, hein ?
Non.
Non.
Bon ben tant pis alors. René, tu nous as trouvé un autre petit outil.
Oui, alors par contre je n'ai pas forcément, enfin je ne l'ai pas testé, mais donc c'est une news qui vient de LinuxFR, un outil qui s'appelle Squest, et apparemment c'est un outil qui permet de faire assez facilement un portail de service. Et donc autrefois je me suis servi d'outils un petit peu équivalents qui n'étaient pas, donc là c'est un outil open source, les outils que j'utilisais autrefois étaient propriétaires, et c'est vrai que c'est un besoin qui parfois apparaît dans les entreprises, de pouvoir faire un portail avec les services pour qu'ils soient consommés par les utilisateurs de manière simple. Et à première vue là, ça, donc une application qui est développée en Python Django et qui permet de créer un portail de service web à destination des utilisateurs finaux assez rapidement et de manière assez efficace. Et l'autre aspect intéressant, c'est que en fait ça fait le portail, mais voilà, ça s'appuie aussi sur la couche AWX, Ansible AWX. Et donc apparemment, le portail va derrière lancer les playbooks que l'on désire pour les différents services. Voilà, je pense que sans l'avoir testé, de ce que j'en ai pu voir un petit peu les screenshots et tout ça, ça a l'air assez, assez intéressant. Et l'autre chose à noter, c'est qu'à première vue, c'est un outil qui est développé par Hewlett-Packard. Donc avec potentiellement peut-être des gens un petit peu financés pour essayer de faire vivre cet outil. Voilà, je pense que c'est intéressant et que c'est quelque chose à suivre et à aller voir.
Pour être bien sûr que j'ai compris, ça se base sur Ansible Tower, donc AWX, pour mettre à disposition des services qui sont dans un catalogue de services. Donc typiquement d'autres services que tu vas déployer sur des serveurs, c'est ça ?
Alors je vais peut-être le dire dans l'autre sens, c'est-à-dire je pense que si à partir du moment où tu as développé un certain nombre de playbooks pour faire un certain nombre de services, créer des VM, créer du stockage et tout ça, là assez facilement tu fais une interface graphique, un portail quoi, pour aller les lancer et les faire consommer, avec potentiellement, ça je suis pas sûr, mais peut-être aussi une notion de qui a droit de le faire, pas le droit de le faire. Après l'outil, je sais pas l'avancement vu que j'ai pas essayé, mais voilà, on peut imaginer que dans le futur ça gère par exemple les autorisations des utilisateurs, et puis derrière même avoir des notions peut-être de qui a commandé quoi, combien, etc. Et avoir peut-être du billing, ça, bon, Je sais, ah, je suis sur des hypothèses, j'ai pas essayé, j'ai pas creusé assez, mais peut-être que c'est l'objectif et c'est vrai que ça peut être assez sympa.
En tout cas, ça fait bien ce que tu dis sur les permissions, puisque l'administrateur peut valider visiblement les demandes de service. Et donc, du coup, éviter que quelqu'un lance des trucs, soit comme un bourrin ou quoi que ce soit, ou s'il n'a pas le droit.
Eh ben, merci. Moi, je vais pas vous parler d'un outil, mais parce que là, vous avez entendu parler de la faille Log4j ou Log4shell, hein, je pense que tout Twitter, tout LinkedIn, enfin tout le monde en a entendu parler. Et du coup, plutôt que de chambouler le programme d'Actu DevOps, parce qu'on avait déjà fait le programme quand c'est sorti, je vous ai trouvé un awesome Log4shell, un dépôt GitHub qui regroupe beaucoup de ressources liées à cette faille de sécurité. Et ce dépôt, il est maintenu par Sneak Labs. Donc, vous pouvez aller le voir en description de ce podcast. Juste un petit mot pour Log4j, si vous voulez en parler deux secondes.
Fuyez. Non, mais, enfin, je sais pas pour vous, excuse-moi, moi j'ai pas été spécialement impacté, j'ai juste vu beaucoup de clients qui s'inquiétaient si justement on utilisait si on avait des services qui exposaient des trucs avec du Log4j ou quoi que ce soit. C'est là que tu vois que ce genre de faille a pris des proportions vraiment grandes. C'est que quand le lundi tu reçois une dizaine de mails de clients qui disent en fait, est-ce que tout va bien? Donc voilà. Et toi, René, du coup?
Bah, moi j'ai une. Ouais, alors la première chose qu'on peut dire, c'est que il faut patcher. Voilà, n'hésitez pas à patcher Log4j. Sachant qu'apparemment, la criticité de la faille, c'est 10 sur 10, donc on est au top. Et apparemment, je pense qu'il va peut-être avoir plusieurs rounds parce qu'il y a d'autres problèmes qui, à première vue, sortent encore, des DOS, etc. Donc voilà, il va falloir probablement. Passer plusieurs fois des correctifs et puis une petite pensée à tous les ops qui voilà qui sont probablement dans des campagnes de pour faire du patch pour ça eux.
Ça me permet de parler de quelque chose justement, peut-être qu'on fera un épisode de Radio DevOps là-dessus, c'est sur l'analyse statique de code. Donc quand vous créez du code, que ce soit du code d'infrastructure ou du code code d'applicatif, vous utilisez forcément des librairies ou autres. Et il est de bon ton de mettre dans vos pipelines ce qu'on appelle de l'analyse statique de code. Donc vous en avez plein. Moi j'utilise Trivy pour scanner mes images de conteneurs. En plus, ça scanne le code en dehors des images de conteneurs, donc c'est très bien. Donc mettez en place ce genre de choses. Si vous le faites tourner tous les jours, vous auriez vu popper le problème de Log4j ou Log4shell s'il avait été référencé dans les bases, etc. Donc c'est quand même pratique de mettre en place ce genre de choses. Je ne sais pas si vous mettez en place des analyses statiques de code qui sont pluggées avec des bases de données qui référencent des CVE justement.
Déjà, sans faire beaucoup d'efforts, tu as le truc, alors faut être sur GitHub, mais tu as leur système avec le dépendabot là qui analyse tout un tas de tes dépendances dans tes projets pour te dire attention, ça il faut mettre à jour parce qu'il y a tel CVE ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un truc qui est clairement pas cher et qui te permet de... Et en plus, il te fait même la pull request. Donc ça veut dire que quand t'as la CI qui va bien, tu sais si en plus ça passe tes tests ou pas. Donc si ça passe tes tests, tu peux être en mode no-brain et émerger. Ça, c'est pas cher. Mais moi, après, pour les conteneurs, j'utilise Claire, qui... Alors, c'est bien, mais pas top, comme dirait l'autre. Ça permet quand même de désamorcer pas mal de choses et en tout cas de savoir, par exemple, si vous avez une image qui se base sur du Debian, savoir que vous avez une faille sur tel package et après vous pouvez regarder. Ça vous donne le lien en plus qui va bien et qui vous permet de savoir si, par exemple, upstream, ça a été fixé ou quoi que ce soit. Et toi, René?
Ouais, je pense qu'on en avait déjà parlé. Après, que ce soit Claire ou Trivy, ça peut être utilisé comme plugin, par exemple, de Harbor, pour les gens qui font du on-premise et qui ont donc Arbor c'est un repository. Donc je sais que j'ai un client voilà qui utilise ça et donc ça permet de s'installer entre guillemets assez facilement et dès qu'on pousse une image dans le repo, ben elle est scannée. Bon après il faut faire les rémédiations qui vont bien hein, bien sûr. Voilà donc oui non c'est aujourd'hui c'est vraiment important d'avoir ce système là et voilà puis après on peut aller un peu plus loin enfin nous aussi ce qu'on met pas mal c'est du sonar par contre là c'est ouais vraiment de l'analyse statique de code où ça va chercher les et on n'est plus sur un comment dire une analyse CVE est-ce que j'ai telle dépendance dans voilà là c'est va plus fin ça regarde carrément le code s'il y a des mauvaises pratiques etc des call smells des choses comme ça.
Ouais,
souvent on couple ces deux outils-là.
En effet, c'est plutôt du code coverage ou ce genre de choses, et je pense qu'on en parlera aussi, qui sont assez proches tous les deux. Ben justement, René, tu vas nous parler d'un autre petit outil, et je crois que ce sera le dernier pour cet épisode.
Ouais, alors c'est pas tout à fait un outil, c'est plutôt une liste, un petit peu comme le lien que tu as proposé juste avant. Je vais juste me rappeler voilà c'est une page qui s'appelle Useful Sed donc Sed c'est quand même un outil qui est des fois un petit peu enfin que les gens connaissent pas toujours bien et qui a une syntaxe un peu rude et en fait il y a c'est une page qui explique un peu comment ça fonctionne et qui donne pas mal d'exemples des one-liners qu'on peut ensuite retravailler pour l'adapter à son cas d'usage. Pour rappel, SED, en fait, c'est Stream Editor, donc ça permet, par exemple, de modifier, entre guillemets, en stream, donc à la volée, entre guillemets, un fichier, changer des chaînes de caractères dedans, effacer une ligne, ajouter une ligne à un tel endroit, récupérer qu'un bloc du texte, enfin voilà, il y a plein de possibilités. C'est un outil qui est très efficace, mais voilà, toujours un peu, des fois, la syntaxe est un petit peu difficile. On peut aussi faire des scripts en SED, en fait, hein, pour enchaîner plusieurs commandes, on peut faire des choses... pas forcément qu'un one-liner, ça peut devenir assez complexe. Mais encore une fois, voilà, avec une certaine difficulté de prise en main. Et cette page résume un peu tout ça. Et voilà, si vous connaissez pas ou si vous avez besoin des fois d'un petit aide-mémoire pour se rappeler un petit peu les commandes et comment ça fonctionne, je l'ai trouvé pas mal.
Sed fait partie.
Je plus sois.
Je disais, Sed fait partie avec Oak de ces outils sur Linux et sur Unix aussi, parce que ça existe sur Unix. Même si on entend moins parler d'Unix aujourd'hui que quand j'ai commencé, mais bon, ça fait partie de ces outils essentiels quand on crée des shell scripts, parce que ça manipule en effet les fichiers, les sorties standards, puisque tu peux manipuler tes sorties standards et faire autre chose avec. Quand tu fais pas un langage de programmation évolué, c'est super efficace. Et donc, je m'y replongerai avec plaisir dans cet outil, enfin, dans ce dépôt-là. Et ben, si Erwan, tu ne rebondis pas, on va clôturer alors.
Clôturons.
Alors. Pour clôturer, si l'épisode t'a plu et que tu veux venir discuter avec nous, tu peux nous rejoindre dans la communauté des compagnons du DevOps. Tu peux t'inscrire, il y a un lien en description, il suffit de le chercher un petit peu, il est un petit peu caché. Et tu peux t'inscrire, tu pourras discuter avec nous, avec tous les autres podcasteurs et même plein d'autres gens, parce qu'on est près de 1000 maintenant, une belle communauté quand même qui s'intéresse au DevOps. Et pour le coup, je vais vous laisser à tous les deux le mot de la fin. Alors René, quel est ton mot de la fin ?
Alors je vais faire un mot de la fin peut-être un tout petit peu long, juste pour dire que le précédent épisode, il y a eu des gens qui ont un petit peu réagi justement sur le forum pour ajouter discuter, rajouter des commentaires. Et voilà, moi j'ai trouvé ça assez sympa et je peux qu'encourager à le faire. Et aussi un truc qui peut être sympa, c'est nous donner un petit peu du feedback, savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Enfin moi je serais assez intéressé pour savoir. Et voilà, au mot de la fin, c'est vous encourager à faire ça et puis encore une fois que vous avez apprécié l'épisode et de ne pas hésiter à nous le dire. Et voilà, ce sera tout pour moi. Je passe la main à Juan.
Et ben moi, le mot de la fin, ce sera dinosaure. We'll be right back.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.